ces systèmes pour non seulement dialoguer, mais aussi avoir des émotions. On établira des relations avec plaisir. En fait, c'est un peu le cas déjà.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. L'IA qui aura un jour des émotions. Cette semaine, on plonge dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle avec la méga star du secteur, le scientifique français Yann Lequin, chercheur en chef du groupe Meta. On écoutera aussi la scientifique québécoise Joëlle Pinault, ainsi que Neil Lameret, directrice du labo de recherche en IA de Meta en Europe. Bref, du très beau monde, des interviews passionnantes à retrouver en deuxième partie de cette émission. Avant cela, l'actu de la semaine, on reviendra sur l'adoption en France de la loi pour sécuriser Internet. Aux États-Unis, Tesla qui annonce un robot-taxi sans volant. Le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti. On parlera d'une nouvelle cybermenace contre l'iPhone. Enfin, en partenariat avec EDF, on reviendra sur le sujet de l'IA, voir comment ça peut venir en aide aux centrales nucléaires pour la transition énergétique avec la société spécialisée Metroscope. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo du 13 avril 2024.
Monde Numérique, Jérôme Colombin.
Ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo, comme chaque samedi, 50 minutes de news et d'interviews. Et puis les autres jours de la semaine, Monde Numérique, ce sont des interviews long format, des éditos, des bonus, disponibles sur toutes les plateformes de podcast, également sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Monde Numérique, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner en allant sur le site mondenumérique.info. À ce sujet d'ailleurs, il y avait un petit problème au niveau du formulaire d'inscription à la newsletter ces dernières semaines. Alors c'est réparé, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour vous abonner si jamais ça n'a pas marché la première fois. Vous déposez simplement votre adresse mail, c'est gratuit, pas de spam, uniquement les meilleures infos de Monde Numérique. Sachez également que vous pouvez écouter ce podcast par chapitre, en tout cas sur certaines plateformes comme Apple Podcast ou bien sur mondenumérique.info. Et vous trouverez également, maintenant, depuis peu, la transcription intégrale, ce qui permet de naviguer, de suivre, de retrouver des informations. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petites étoiles à propos de ce podcast sur les plateformes. Et puis, vous pouvez bien sûr m'envoyer des messages via les réseaux sociaux ou encore par mail, tout simplement. Alors, là encore, à travers le site mondenumérique.info.
L'actu de la semaine.
L'actu de la semaine avec celui qui nous a rejoint la semaine dernière déjà, qui remplace Lisa de Bernard pendant ses vacances, c'est le journaliste virtuel de Monde Numérique, Nicolas. Nicolas est une voix clonée, générée par intelligence artificielle. Vous avez fait sa connaissance la semaine dernière et vous avez été nombreux à trouver l'expérience intéressante et même carrément positive. Alors voilà, eh bien Nicolas a gagné le droit de revenir en deuxième semaine et c'est lui qui se charge de l'actu. Alors, il faut préciser que tout ce que dit Nicolas est validé par moi-même, évidemment. Et on commence avec un peu d'intelligence artificielle, bien sûr, avec des annonces pour les prochaines semaines, en fait. Ce sont GPT-5 et Llama 3, les modèles d'IA d'OpenAI et de Meta qui arriveront bientôt sur le marché. On voit ça en détail avec Nicolas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Oui, ces deux nouvelles IA, elles émanent de poids lourds du secteur. C'est d'abord OpenAI, la maison mère de ChatGPT, qui promet pour bientôt GPT-5, la nouvelle version de son LLM, son grand modèle de langage. De son côté, Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, annonce l'arrivée prochaine, sans doute dans les prochaines semaines, de son modèle Llama version 3. Ces deux modèles de langage sont présentés comme révolutionnaires. Le New York Times n'hésite pas à parler d'IA qui résonne, car elle devrait être dotée pour la première fois de capacités de raisonnement et de planification, une avancée majeure qui pourrait marquer un tournant décisif vers la quête d'une intelligence artificielle générale. Ces IA seraient capables d'envisager différents scénarios, d'anticiper les conséquences de leurs actions et d'élaborer des plans pour atteindre un objectif complexe, une vraie rupture par rapport aux modèles précédents, souvent critiqués pour leur manque de cohérence et leur hallucination. Llama 3, par exemple, devrait compter 140 milliards de paramètres, soit le double de la version actuelle. Des versions de différentes tailles sont prévues pour différents usages.
Alors, on reviendra sur cette question des modèles de langage dans la deuxième partie de cette émission. C'est le cœur de cet épisode de l'Hebdo, hein, avec des invités prestigieux que j'ai eu la chance de rencontrer à l'occasion d'un événement spécial organisé par le groupe Meta à Paris. Donc, restez à l'écoute de ce podcast. Toujours en matière d'IA, on le sait, la course à l'intelligence artificielle, c'est aussi la course à la puissance informatique et donc aux microprocesseurs. Avec une obsession grandissante chez les géants du secteur, eh bien celle de s'émanciper de la tutelle du tout-puissant Nvidia, cette marque américaine qui domine le marché avec ses superprocesseurs dédiés au calcul pour l'IA. Mais la concurrence commence à fourbir ses armes, hein, Nicolas ?
Intel, Google et Meta cherchent à s'affranchir de Nvidia et préparent actuellement leur propre processeur. Intel mise gros sur sa nouvelle puce Gaudi 3 qui sera disponible au troisième trimestre. Conçue pour l'entraînement et l'exécution des systèmes d'IA, elle promet des performances accrues tout en étant plus économe en énergie que la référence Nvidia H100. De leur côté, Google a présenté ses nouvelles puces Action avec ARM, tandis que Meta a déployé sa propre puce Maison pour ses systèmes d'IA. Un moyen pour ces mastodontes de réduire leurs coûts et de ne plus dépendre d'un seul fournisseur, à l'instar d'Apple, qui crée désormais aussi ses propres processeurs. Ces grandes marques veulent reprendre la main sur le hardware, qui est l'autre composante clé de l'intelligence artificielle.
L'actu de la semaine.
En France, une nouvelle loi pour Internet. Ça y est, elle a été adoptée, la loi pour sécuriser Internet. C'est comme ça qu'elle s'appelle, la loi SREN, S-R-E-N. Elle a été votée par l'Assemblée nationale ce mercredi. Un texte un peu adouci par rapport à la première version, mais qui a quand même suscité l'opposition assez vive de la gauche, de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Alors, on voit en détail de quoi il s'agit. Première mesure, elle concerne les réseaux sociaux.
Oui, c'est l'une des mesures phares du projet de loi SREN, le bannissement des réseaux sociaux pour les personnes commettant des infractions en ligne. Les auteurs de publications et de messages malveillants pourront être interdits d'accès aux plateformes pour une durée allant de 6 mois à 1 an. Cependant, la mise en place de cette mesure nécessite de trouver une méthode pour lier les comptes sur les réseaux sociaux à une personne physique, ce qui n'est pas encore clairement défini dans le projet de loi. L'idée d'une identité numérique obligatoire est abandonnée.
Autre disposition qui a fait couler pas mal d'encre, hein, c'est celle qui consiste à renforcer le contrôle d'accès aux sites pornographiques pour les mineurs.
Initialement, la loi prévoyait de permettre à l'ARCOM de bloquer et de déréférencer, sans décision judiciaire, tout site pornographique ne procédant pas à une vérification d'âge pour toute connexion d'un internaute français. Cependant, cette mesure a été revue à la baisse dans la version définitive du texte. L'ARCOM, l'autorité de surveillance de l'audiovisuel et du numérique, devra élaborer un référentiel et proposer un système de vérification. Ce ne sera pas simple. En attendant, l'ARCOM souhaite que les sites pour adultes vérifient l'âge des utilisateurs avec la carte bancaire.
Voilà, et ça pourtant, la CNIL avait dit que c'était pas possible. Autre disposition concernant cette fois les deepfakes, c'est également dans la loi SREN.
Oui, la publication de deepfakes sans consentement et de contenus à caractère sexuel utilisés pour le chantage sont désormais punis de plusieurs années de prison et de lourdes amendes.
Ok, et enfin, il y a cette histoire de filtre anti-arnaque.
Un filtre qui prendra la forme d'un message d'alerte avertira les utilisateurs lorsqu'ils s'apprêtent à se diriger vers un site malveillant à la suite de la réception d'un SMS ou d'un courriel frauduleux. Cependant, la mise en œuvre de ce filtre nécessite la création d'une liste rouge des sites frauduleux par les opérateurs télécoms, ce qui a suscité des réserves, notamment de la part de la Commission nationale informatique et liberté.
Voilà pour les principales dispositions de la loi SREN, donc un arsenal qui s'annonce quand même assez complexe et en plus il faut s'attendre d'ores et déjà à des recours en Conseil constitutionnel, ce qui pourrait encore un peu changer la donne. Elon Musk veut fabriquer un taxi autonome, un robot-taxi de la marque Tesla. Il devrait voir le jour l'été prochain.
Le véhicule devrait ressembler au Cybertruck, le gros SUV de la marque. Bien sûr, ce sera un véhicule totalement électrique et qui serait même dépourvu de volant. Il faut savoir que le projet de développer une voiture complètement autonome est dans la tête d'Elon Musk depuis toujours. C'était même ce qu'il voulait faire en lançant la marque Tesla, mais ses ingénieurs l'ont obligé à mettre de l'eau dans son vin. Les Tesla actuels ont un système d'autopilote particulièrement sophistiqué, à condition d'acheter cette option qui coûte plusieurs milliers de dollars. Mais les Tesla ne sont pas officiellement des voitures autonomes de niveau 4 ou 5. Cependant, à ce jour, les véhicules entièrement autonomes ne sont autorisés que dans certaines villes pour des programmes tests, comme par exemple à San Francisco. Elon Musk devra donc encore convaincre les régulateurs qui risquent de se montrer prudents avant d'autoriser la libre circulation de ces engins. Tesla viserait d'en vendre la bagatelle de 163 millions d'unités, soit un peu plus que le Cybertruck actuel.
Retour en France avec une bonne nouvelle pour les possesseurs d'iPhone qui vont enfin pouvoir l'utiliser pour prendre le métro, le bus en Île-de-France. En tout cas pour passer vraiment au guichet sans avoir à sortir une carte comme dans l'ancien temps. Voilà, c'est ce qu'a annoncé Île-de-France Mobilité. Le Pass Navigo va pouvoir être intégré dans l'iPhone comme il peut déjà l'être dans les smartphones Android.
Cela devrait être opérationnel d'ici la fin du mois de mai. Il faut savoir que les usagers d'iPhone peuvent déjà acheter et charger leur abonnement ou leur ticket à l'unité sur leur smartphone, mais pas passer les automates dans les stations avec leur mobile. Pourquoi est-ce que ça a été si long? Apple limitait jusque-là l'utilisation de la technologie NFC qui permet au téléphone de communiquer avec les bornes de validation. Un accord a été signé avec Île-de-France Mobilité en 2022 après plus de 3 ans de négociations. Ensuite, il a fallu attendre encore en raison de complications administratives et techniques. Initialement prévu pour le premier trimestre 2024, la mise en place de ce système a nécessité un développement technologique supplémentaire qui est en cours de finalisation. La promesse, c'est qu'il soit opérationnel pour les Jeux Olympiques de juillet prochain.
Voilà pour les principales news qu'il fallait retenir cette semaine. Merci mon cher Nicolas, journaliste virtuel de Monde Numérique. J'accueille tout de suite un autre intervenant qui nous arrive directement du Canada.
Le débrief transatlantique.
Salut Jérôme Colombin.
Oh, c'est magnifique. C'est, beau, ton, hein? C'est ton avion, c'est ton jetpack qui vient de se poser dans mon podcast.
Exactement. Tu imagines un peu toute l'énergie que j'ai économisée plutôt qu'à prendre un avion.
Salut Bruno Guglielminetti.
Ben, monsieur Colombin. Vous avez fait oui. Des grosses rencontres, vous, cette semaine.
Ah oui, c'est vrai. Et c'est vraiment le sujet principal de mon podcast cette semaine. Mais ce qui est drôle, c'est que toi aussi, de l'autre côté de l'Atlantique, tu as rencontré du beau monde. Hein?
Ouais, ben écoute, tu fais allusion à la rencontre que j'ai eue, c'était dimanche dernier, alors qu'il y avait le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui présentait son nouveau budget, en tout cas une partie de son budget qui va être annoncé là, très bientôt. Et là-dedans, il y a 2,4 milliards de dollars canadien qui va être investi dans l'infrastructure de l'IA au Canada et particulièrement dans le domaine de la sécurité. Ils vont créer un institut qui va veiller à la question de la sécurité dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et justement, pour cette présentation-là, ben il y avait flanqué à côté de lui, Yoshua Bengio, qui est un des 3 parrains là, de l'intelligence artificielle, comme on la connaît aujourd'hui.
Yoshua Bengio.
Ouais.
Et donc,
Bengio de dire qu'avec cette initiative de créer un institut pour la sécurité et l'IA, le Canada se plaçait du bon côté de l'histoire. Et c'est assez intéressant parce que son entourage, par la suite, ils se reconnaîtront, sont passés voir en disant « Vous avez compris hein, la subtilité de son message? » J'ai dit « Oui, il en veut à la France.
» Ah ouais, ouais? C'est vrai? Pourquoi?
Ben ouais, parce qu'il trouve que vous faites pas trop attention à l'aspect sécuritaire de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais voilà, écoute...
Qui, nous?
Ouais. Ouais. Mais de toute façon, regarde, on aura l'occasion d'aborder le sujet avec lui tous les deux, parce que on m'a dit que dans c'est une question de semaine, sinon un mois, on devrait lui parler tous les deux et faire une entrevue commune, alors on pourra lui poser la question.
Tu parles de Yoshua Bengio,
oui. Justin Trudeau, là. Yoshua Bengio.
Non, mais écoute, ah bah oui, alors là, voilà, effectivement, c'est un petit scoop qu'on vous livre. Hein. On est en train d'essayer de monter une interview commune de Yoshua Bengio, donc à suivre.
Ouais, mais toi là de ton côté, parce que c'est tu ferais aussi avec les parrains de l'IA.
Ouais, mais avec un collègue de longue date de Joshua Benjou, qui n'est autre que le français Yann Lequin, parce qu'en fait, voilà, c'est les parrains du deep learning. Hein. Ils sont trois, Yann Lequin, Joshua Benjou, et puis
l'anglais devenu torontois et qui travaillait pour Google. Là, dont
voilà. Geoffrey Hinton, qui d'ailleurs, lui, se range dans le camp des inquiets hein, par rapport à l'intelligence artificielle.
Et c'est intéressant. Hein? Il y a deux inquiets d'un côté, puis il y a le jovialiste de l'IA qui est...
Voilà, les Français sont plus jovialistes, si tu veux.
Au niveau de l'IA, peut-être, oui.
Mais effectivement...
Donc, c'est ça. Alors, ta rencontre, comment ça a été avec lui?
Ben, c'était très intéressant. C'était organisé au siège de Meta à Paris. Alors, je n'étais pas tout seul, hein, je te l'avoue. C'était même international, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes français, mais également étrangers. En fait, c'est Meta qui déballait tout son savoir-faire en matière d'intelligence artificielle. Alors, j'en parle longuement dans mon émission cette semaine. Ce sera juste après notre rencontre, là, avec plusieurs interviews de Yann Lequin, mais également... alors, on revient au Québec. Hein, c'est amusant. D'une Québécoise, Joëlle Pinault. Et puis, Naila Murray, qui, elle, est encore d'une autre nationalité. Elle est originaire de Trinidad et Tobago. Et elle dirige le laboratoire FAIR de Meta au niveau Europe, Proche-Orient et Afrique.
Ouais, tu me permets de mentionner Joëlle Pinault, ouais. elle est en charge de la recherche sur l'IA. Mmh. Et puis, elle est aussi prof à l'Université McGill. Et ici, elle est de toutes les grandes tribunes parce que, justement, elle est... Lacun, là, ça partage les plateaux, là.
Ben, ce sont des pointures, hein.
Mais sinon, l'entourage, est-ce que ça allait bien? Est-ce que vous avez été capable de leur parler?
Bah, écoute, oui, mais alors, c'est Yann Lequin, c'est une star internationale maintenant. Alors, moi, je l'avais rencontré il y a très longtemps, avant qu'il devienne une star, à France Info, je l'avais interviewé. Il était encore abordable, accessible. Il venait d'avoir sa médaille Field, sa décoration de mathématiques, mais on pouvait encore l'interviewer. Là, ça devient extrêmement compliqué de pouvoir lui parler. Il faut passer toutes les barrières des services de communication. Et tu sais, toi comme moi, que ces gens-là sont très forts. Hein. Ils se mettent à 12. Il y a le chef, le sous-chef, le sous-sous-chef, le prestataire extérieur, le sous-prestataire extérieur. Et tu parles à tout le monde et on t'explique que oui, ça va être possible dans une demi-heure. Non, alors attends, finalement, c'est pas possible maintenant. Oui, alors peut-être au bout de la salle. Ah non, alors là, il y a l'heure du déjeuner. Non, revenez. Alors finalement, ce sera dans trois quarts d'heure. Au bout d'un moment, tu deviens fou. Au début, tu es poli. À la fin, tu t'énerves. Bref, j'ai quand même réussi à enregistrer un peu de conversation avec Yann Lequin. Et c'est absolument passionnant. Et c'est à écouter cette semaine.
De toute façon, moi, j'ai vu un petit extrait vidéo que tu as fait, que tu as partagé sur les réseaux sociaux. Et juste ce bout-là, c'est quand même intéressant.
Il est extraordinaire.
C'est un grand pédagogue. Vraiment... Ben, un peu comme Yeshua Benjou aussi.
C'est un très grand pédagogue.
Mais ce sont des grands pédagogues de l'IA.
Ah ouais, il a une manière de trouver des images à chaque fois, très, très rapidement. C'est un plaisir.
Bon, ben ça, c'est donc Yann Lequin, c'est bientôt, là, tout de suite après dans ton podcast.
Voilà.
Et puis, Joshua Benjou, ben, c'est dans quelques semaines, il faudra patienter. Mais sinon, est-ce que tu as vu l'annonce passer, je pense à nos auditeurs respectifs qui sont utilisateurs de iPhone, tu as vu cette mise en garde?
Alors, je l'ai vu parce que j'ai vu l'alerte que toi, tu as publiée dans ta newsletter. Mais j'attends que tu m'en dises plus. De quoi il s'agit? Donc, il y a un problème sur les iPhones.
Ouais, ben écoute, c'est une alerte assez sérieuse pour que Apple, de son côté, comme fabricant, fasse circuler l'information. Ça touche des utilisateurs d'iPhone pour le moment dans 92 pays de la planète. Et les gens qui sont affectés...
Et on est concernés
ou pas? Ben là, c'est ça. Les gens qui sont affectés auront reçu, au moment où on se parle, un petit message ou par e-message ou carrément un courriel de la part d'Apple pour dire que leur appareil est concerné par l'information qu'ils ont là, concernant cette utilisation d'un logiciel espion qui aurait tenté d'attaquer leur appareil, sinon aurait réussi. Mais donc ça, c'est une mise en garde qui est faite. Ce qui me rappelle, et je prends le moment que qu'on a à se parler comme ça, de rappeler à nos éditeurs respectifs que de temps en temps, il est toujours bon de redémarrer son téléphone. Même chose pour l'ordinateur. Que ce soit un Mac, que ce soit un PC, parce que dans la plupart des cas, lorsque des attaquants ou des espions ou des intérêts étrangers ou même des petits arnaqueurs technologiques décident de vous attaquer comme appareil, s'ils réussissent à installer quelque chose, normalement, c'est fait à la va-vite et donc, tout simplement en fermant l'appareil et en relançant l'appareil, vous pouvez neutraliser dans la majorité des cas. Évidemment, il y a des cas où c'est des applications, des petits logiciels qui sont beaucoup plus fins, qui vont aller se cacher à quelque part. Et systématiquement, là, quand vous allez relancer une fonctionnalité de votre appareil, ça va redémarrer. Mais dans la plupart des cas, là, vous risquez de juste tout simplement arrêter ces tentatives d'intrusion chez vous. Mais donc, mais c'est quand même sérieux, hein, 92 pays qui sont alertés. Puis, comme tu le disais, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur moncarnet.com, j'ai fait un texte là-dessus parce que je trouvais ça intéressant puis surtout important que l'information soit partagée.
Tout à fait, absolument. Ben, merci beaucoup de cette mise en garde, mon cher Bruno. Je vais immédiatement redémarrer mon iPhone, alors, puisque tu me le conseilles. À part ça, mon cher Bruno, de quoi parles-tu dans mon carnet cette semaine?
Ah ben écoutez, mon cher monsieur, de mon côté, c'est moins IA que toi. Mais somme toute, quand même, j'aborde la chose avec... écoute, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, toi, d'un traducteur de pleurs de bébé? Eh ben oui, ça existe.
Ah ouais?
C'est une entreprise qui lance ça, c'est Nanny AI. C'est un traducteur de pleurs de bébé, en plus d'être un outil avec un agent conversationnel pour aider les parents. Mmh. Mais c'est basé sur 3 ans de recherche avec des instituts sérieuses dans le sujet. Il y a des médecins qui sont derrière ça. Et donc, semble-t-il qu'ils sont arrivés à comprendre des pleurs de bébé.
Enfin.
Je te donne un punch, là, 45% des pleurs ont un lien avec de la douleur. Pour l'enfant. Et le reste, il y a de la variation et c'est un peu ce que l'inventeur nous explique. Et puis, sinon, je parle avec Ting.
OK. Qui ça, Ting?
Qui est une cagnotte. Ce sont des Français qui habitent maintenant au Québec, qui ont démarré ça il y a 6 ans. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Évidemment, bon, ils sont dans l'ombre de GoFundMe. Mais ils ont leur marché, ils sont en train de se concentrer dans différents marchés parallèles à ce que GoFundMe peut offrir comme service. Mais bon, il y a quelque chose, il y avait comme un cheminement, puis c'est de parler un petit peu de ce qu'ils ont appris du sociofinancement, parce que dans le marché niche qui les intéresse, c'est beaucoup plus les individus, genre des cagnottes qu'on monte pour le départ d'un, l'arrivée de l'autre, et puis des événements heureux. Et puis sinon, je fais un clin d'œil avec l'éditrice du Net Tendance, qui est une étude de marché et qui suit l'évolution de l'utilisation de l'Internet par les Québécois. Et là-dedans, on découvre que ce mois-ci, que Amazon détient 52% de parts de marché sur le marché québécois quand vient le temps de regarder où les gens vont acheter.
Ouais,
c'est un Québécois sur deux qui magasine chez Amazon.
Ben,
et note très malheureuse, ben, les cybermarchands québécois, ils se retrouvent tout en bas du palmarès des destinations où on va pour acheter des choses. Alors ça, c'est malheureux. Alors voilà, ça ressemble à ça, mon carnet, cette semaine.
Eh bien, écoute, joli programme. GoFundMe, c'est l'équivalent de ce qu'on a chez nous qui s'appelle Litchi. Hein? C'est un système de cagnotte, c'est ça?
Voilà, exactement.
D'accord. Ouais. Et donc, il en existe plein. Eh bien, super intéressant tout ça, mon cher Bruno. Donc, j'invite mes auditeurs à aller écouter mon carnet juste après l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo, comme chaque semaine.
Bon, ben si tu fais ça, moi, je fais pareil.
Ben, hein.
J'invite mes auditeurs à passer chez vous. Et puis, tout de suite après mon carnet, puis je te dis à la semaine prochaine. Salut!
Salut, Bruno, à la semaine prochaine.
Monde numérique, le meilleur de la tech.
Allez, on passe aux interviews de Monde numérique avec cette semaine un petit dossier spécial IA. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale. Si vous écoutez Monde numérique, l'hebdo premium sur Apple Podcast, sinon retrouvez-les en épisodes séparés la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde numérique. Imaginez un assistant intelligent capable de vous organiser de A à Z un voyage entre New York et Paris. De prendre le billet d'avion, de réserver un taxi, de gérer toutes les contraintes de distance, de délai, de retard, etc. Eh bien, promis, ça existera un jour, si on en croit Yann Lequin, chercheur en chef en intelligence artificielle au sein du groupe Meta. C'est là-dessus que travaille Meta depuis plusieurs années et ça fait un moment qu'il dit, Yann Lequin, qu'on aura tous bientôt des petits assistants intelligents qui travailleront pour nous. Mais pour ça, il faut des IA aussi intelligentes que l'humain. Et on est loin d'y être, car selon Yann Lequin, les IA génératives actuelles n'ont rien à envier au cerveau d'un enfant de 4 ans qui est déjà bien au-delà, puisqu'il sait reconnaître en quelques minutes un chat, alors qu'une IA, elle, a besoin de centaines d'heures d'entraînement pour parvenir à ça. Les fameux LLM, les grands modèles de langage, ne traitent que du texte ou bien des images ou du son transformés en éléments textuels ou numériques. Et selon Yann Lequin, ça ne suffit pas, ce n'est pas une bonne voie. C'est pour cela que Meta a choisi une autre approche, basée sur des algorithmes baptisés JEPA, qui tentent d'appréhender le monde dans sa globalité. Yann Lequin parle d'une IA guidée par l'objectif, c'est-à-dire qui se concentre sur l'essentiel, vers sa mission sans s'embarrasser des détails. C'est de cela dont il était question cette semaine à Paris, au siège de Meta, et je vous propose l'enregistrement d'une conversation avec Yann Lequin, interrogé par quelques journalistes. Comment vous définiriez ce que vous faites chez Meta par rapport à ce que font d'autres ? Dans quelle direction vous allez, vous ? Quel est votre but en matière d'IA ?
Donc, la possibilité de faire la recherche à long terme, déjà, ça nous caractérise. Ensuite, faire la recherche ouverte, c'est-à-dire en collaboration avec le monde académique, avec d'autres entreprises peut-être plus petites, avec la recherche publique en France, par exemple. Et puis, une vision sur quel chemin emprunter pour arriver à des systèmes vraiment intelligents, c'est-à-dire qui puissent peut-être atteindre le niveau d'intelligence humaine. Et là, chaque entreprise a son idée un petit peu, sa philosophie, et puis certaines en ont changé. Et avec l'idée que pour arriver à l'intelligence du niveau humain, il suffit de faire des modèles plus gros, entraîner avec plus de données, avec des ordinateurs plus puissants. Ça, moi, je n'y crois pas. C'est-à-dire, je pense qu'il faut des architectures fondamentalement nouvelles qui permettent aux machines de comprendre le monde physique, de raisonner, d'avoir la mémoire persistante, etc. Donc, il faut de l'innovation scientifique. C'est pas simplement un problème de technologique de faisons plus fort, plus gros, quoi. Il faut vraiment des progrès conceptuels. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille.
Alors, les modèles de langage qui travaillent à partir du texte, ça suffit pas.
Un système ne peut pas comprendre comment fonctionne le monde simplement à partir de texte. C'est très, très stylisé, en fait, ce qu'on met dans le texte. Il y a tout un tas de choses qu'on n'exprime jamais en texte parce qu'elles sont tellement évidentes à cause de notre expérience du monde qu'on l'écrit jamais. Alors, en fait, si on essaie au niveau philosophique de savoir ce que c'est vraiment que l'intelligence, c'est essayer de trouver des bonnes représentations d'un phénomène, d'une réalité, qui nous permettent d'agir déjà sur la réalité ou de la comprendre ou de la prédire. La prévision, c'est un peu l'essence de l'intelligence. Donc ce processus par lequel on trouve des abstractions qui nous permettent de faire des prédictions, c'est un peu l'essence de l'intelligence. C'est ce qu'on essaie de faire avec ces modèles JEPA que j'ai essayé. Un chat gouttière est capable de faire ça aussi. Un chat gouttière trouve les bonnes représentations et abstractions pour prédire la trajectoire de la souris ou arriver à ouvrir la porte de l'endroit où il veut rentrer, etc. Et c'est un processus complètement différent d'essayer de prédire tous les détails. Et ça nous a pris 7-8 ans à dégager ce concept-là. C'est pas évident.
Et donc vous pensez que les modèles qui sont basés uniquement sur le texte aujourd'hui, en fait, ils font fausse route ?
Ils font pas fausse route parce qu'ils sont utiles. Donc si on veut faire des applications à court terme, des gens intelligents comme le font les groupes de produits, GenAI, à Meta, c'est très bien. Mais comme chemin vers l'intelligence de niveau humain, c'est une bretelle de sortie qui sort de l'autoroute. C'est un composant intéressant qui va être réutilisé. Mais quand on parle, on a le concept, on a une idée, un modèle mental, enfin une idée qui est représentée quelque part dans le cerveau, dans le cortex préfrontal probablement. Et puis ensuite, on a un processus par lequel on peut traduire cette idée en langue, en langage, pour l'exprimer. La partie du cerveau qui fait cette traduction d'une idée en texte, c'est un tout petit morceau de cerveau qui est là, ça s'appelle l'aire de Broca. Si on l'a pas, on peut pas parler, mais on peut quand même penser. On peut pas parler. Un LLM, c'est une aire de Broca. Maintenant, tout ça, on l'a pas reproduit encore. Donc c'est, il faut se méfier en fait. C'est pas parce que une machine peut manipuler la langue qu'elle est nécessairement intelligente. Donc on est un petit peu victime de ça. Hein. C'est l'effet Elisa dont vous avez peut-être entendu parler.
Est-ce qu'on va développer des relations personnelles avec l'intelligence artificielle que ça va devenir nos amis?
Oui, on établira des relations avec les avec les IA. En fait, c'est un peu le cas déjà parce que on a tendance à anthropomorphiser. C'est un mot français, ça.
Oui.
des objets, hein, même des voitures, des choses comme ça. Donc c'est évidemment une tendance assez facile, mais à terme, ces systèmes pourront non seulement dialoguer, mais aussi avoir des émotions. C'est quelque chose dont je parle plus beaucoup, mais ces architectures dont je parle, qui sont pilotées par des objectifs, si elles ont des objectifs à remplir, il leur faut la capacité de prédire à l'avance si une séquence d'actions qu'elles vont faire vont remplir cet objectif, même si elle peut pas tout prédire ce qui va se passer. Et ça, c'est très similaire aux émotions pour les animaux et les humains. Bon, par exemple, la peur, c'est une émotion qui est produite par une prédiction de quelque chose de très négatif qui peut se produire ou un risque que quelque chose de très négatif puisse se produire par anticipation. C'est beaucoup une anticipation de résultats, les émotions. Il y a les émotions immédiate. Si je vous pince le bras, ça va vous faire mal immédiatement, quoi. Vous n'avez pas besoin de prédire quoi que ce soit. Mais la deuxième fois que je vais essayer de le faire, vous allez reculer parce que votre modèle du monde qui inclut le fait que je pince les gens va vous faire prédire que quelque chose de déplaisant va se produire. Donc là, ça c'est une émotion. C'est pas vraiment la peur, mais un petit peu. Et les machines auront ce genre d'émotion à terme. Pour l'instant, non. Ouais. Pour l'instant, c'est du pipeau.
Et dans combien de temps? Est-ce que c'est juste une question de temps ou il y a déjà des obstacles que vous voyez pas comment vous pourrez les surmonter?
Ah ben, surmonter les obstacles, c'est ce sur quoi on travaille. Donc oui, on est très familier avec les obstacles. C'est comme si on était devant une montagne et qu'on essaie de la gravir en ce moment. Hein. Donc oui, on connaît l'obstacle, mais on sait pas combien il y a de montagnes derrière. Donc c'est pour ça, en fait, que très souvent, les gens un peu jeunes ou naïfs ou optimistes ou victimes d'auto-illusions, en général, se disent « Ah voilà, c'est la dernière montagne, on gravit cette montagne, et après... »
C'est réglé.
Le problème est réglé. Et il y a eu ce genre de réflexion dans l'histoire de l'IA depuis 65 ans. Donc voilà, la montagne qu'on est en train de gravir. En fait, j'ai dit les quatre problèmes. Le premier problème, c'est arriver à reproduire le type d'apprentissage qui se passe chez les enfants quand ils observent le monde et arrive à comprendre la nature du monde physique, la gravité, les objets, le caractère tridimensionnel du monde, différence entre objets animés et inanimés, enfin tous les concepts de base qu'on apprend les premiers mois de la vie, quoi, que aussi les animaux apprennent. Donc ça, c'est une grosse montagne. Ensuite, il y a l'intégration de ça dans un système qui est capable de planifier des actions pour arriver à un but. La deuxième montagne. Et il y a des tas de problèmes qui sont cachés derrière ça. Le fait que, par exemple, si le modèle du monde prédictif est pas exact partout, le système va pas planifier correctement. C'est-à-dire qu'il va se faire une idée de quel va être l'effet de des actions qu'il va prendre qui va être fausse. Et donc pas arriver au résultat escompté. Et puis il y a le troisième qui est comment spécifier justement ces fonctions objectives pour remplir un but particulier, ainsi que les garde-fous. Bon, il y a des tas de problèmes, c'est pas seulement des problèmes techniques et technologiques. Donc, des tas de problèmes à régler, c'est un programme de 10 ans. Hein.
Voilà, pour cet entretien avec Yann Lequin, chercheur en chef en intelligence artificielle chez Meta. Ce n'est pas tout. Pour approfondir le sujet, je vous propose d'écouter maintenant Neila Murray. Elle dirige le laboratoire de recherche en IA de Meta au niveau Europe, Proche-Orient et Afrique, en suivant le cap défini par Yann Lequin. Et elle nous explique comment fonctionnent les modèles d'IA et ce qui se prépare pour le futur.
Ici, à FAIR, on travaille sur les problèmes comme le raisonnement, comment on peut avoir vraiment un agent intelligent qui peut avoir du raisonnement, qui peut planifier, par exemple, et qui peut avoir un modèle du monde aussi, pour pouvoir aborder des questions comme si je fais cette action, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'agis de cette manière, comment ça va changer le monde, je peux dire, comme conséquence.
D'accord. Ouais. Donc, c'est une approche beaucoup plus globale que ce qu'on voit aujourd'hui avec les chatbots basés sur des modèles, des grands modèles de langage, etc., qui sont basés essentiellement sur l'écrit, en fait.
Exactement, oui. Il y a plusieurs types de l'IA, de DIA, non? Il y a, c'est vrai qu'on a un travail, on en parle beaucoup maintenant des langages de, des modèles de langage maintenant. Et c'est très intéressant comme technologie. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on a aussi les modèles qui peuvent générer des images aussi, des vidéos avec, you know, par exemple, Sora était très intéressant aussi de voir. Mais en plus, il y a pas mal de DIA qui est pas du tout génératif, non? Il y a les systèmes de l'intelligence artificielle qui nous aident à prendre des décisions, par exemple. Et ça, c'est tout à fait autre chose.
Quels sont les obstacles que vous avez à surmonter? Quel est le chemin qui vous reste à faire pour arriver à ce but que vous fixez?
Oui, c'est une bonne question. On voit, je pense qu'on a, il y a plusieurs obstacles à aborder. Donc, par exemple, maintenant, les modèles sont pas, ils ont pas une vraie connaissance de comment fonctionne le monde. Non. Donc, par exemple, juste parle d'une intelligence sociale, par exemple. Si un modèle émite un texte, ce modèle aura pas du tout une notion de quelle sera l'émotion que ça peut évoquer dans quelqu'un. Donc ça, c'est une notion d'une connaissance du cerveau de quelqu'un d'autre. C'est pas du tout possible maintenant pour ce genre de modèle qu'on a construit jusqu'au maintenant.
D'accord.
Et si on parle aussi sur le monde physique, la notion de si je jette quelque chose, quelles seront les conséquences de ça? C'est pas nécessairement possible pour un modèle de pouvoir comprendre tout ça, vraiment.
Un jour, vous trouverez la réponse à ce problème-là?
Oui. Ouais. Honnêtement, je pense qu'avec de la bonne ingénierie, on peut faire ce type de choses peut-être dans les mois qui suivent, en fait.
Ah oui?
Oui, je pense que oui. Mais ça va être un peu compliqué, je dirais. Ça serait un peu complexe comme modèle. Je pense que pour ça, il faut faire pas mal d'ingénierie. Ça serait assez brittle. Je sais pas comment dire ça, mais je pense que ça serait pas très robuste. Mais je pense que pour aller au-delà de ça, ça va prendre bien plus de temps.
Ouais. Est-ce que au stade où vous en êtes, donc c'est dans la recherche chez FAIR, vous souciez déjà des risques éventuels qui pourront découler de ces innovations?
Je peux imaginer quelques risques, donc par exemple
des dérives, etc.
Oui, je peux imaginer ça. Je pense qu'avec toute la technologie, il faut avoir des mesures de sécurité. Et je pense que ça, c'est un peu, c'est toujours quand on arrive à un moment où les modèles travaillent d'une manière appropriée, il faut avoir aussi les systèmes, les mesures de sécurité. Et je pense que ça sera le cas aussi avec, dans ce cas-là. Et donc, par exemple, on peut imaginer que si on demande à un modèle d'acheter les choses pour nous, il faut peut-être avoir des systèmes pour vérifier, OK, si on va acheter, utilise 100 000 euros pour quelque chose, peut-être il faut avoir
vous lui demandez une paire de chaussures, qu'il n'aille pas vous acheter un yacht, quoi.
Exactement. Donc, il va falloir des mesures comme ça. Mais c'est le type de choses que, sur laquelle moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir. Je pense que c'est un peu trop tôt de parler des problèmes, des risques un peu existentiels, comme par exemple, est-ce que ces agents vont nous échappent totalement?
Ouais.
Et ça, je pense que c'est un peu tôt pour dire qu'on a ce type de risque. Parce que c'est vraiment difficile d'avoir des modèles.
Est-ce que le problème, c'est pas quand on s'en aperçoit trop tard aussi?
Oui, mais c'est un peu difficile de voir comment ça va se passer avec les modèles qu'on a maintenant.
Ouais.
C'est pour penser à ce type de risque, il faut penser vraiment à un type de modèle qui n'existe pas au moment. Parce que par exemple, si on pense à construire des modèles plus et plus grands, pour ça il faut avoir par exemple des cartes graphiques, plus de cartes graphiques, plus d'énergie pour les faire tourner. Et c'est pas évident qu'on peut ces modèles peuvent agir sans nous, sans un nourrissement d'énergie, des cartes graphiques, des choses comme ça. Si on pense pratiquement comment ça peut se passer, c'est difficile pour moi de voir.
Merci Neila Murray, directrice du laboratoire FAIR de recherche en IA de Meta pour l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique. Et toujours dans le cadre de ce dossier sur l'IA, eh bien pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça, un troisième entretien, j'ai eu la chance de rencontrer également la Québécoise Joëlle Pinault, qui est la grande directrice de l'ensemble de la recherche en IA pour le groupe Meta. Avec elle, on évoque la compétition entre les grands acteurs aujourd'hui à travers le monde.
Je pense que la course, c'est pas mal la même. Le développement se fait rapidement. Puis je pense que tout le monde a l'intérêt et l'ambition. En tout cas, les gros joueurs, ceux qui ont les ressources nécessaires par rapport aux puissances de calcul, là, ceux qui ont les ressources nécessaires ont tous l'ambition de faire des modèles à la fine pointe de l'intelligence, des gros modèles. Ceci dit, c'est juste une petite partie là, de la révolution de l'IA. Oui, il y a les gros modèles, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est là où est-ce qu'on en est sur des trajectoires très, très différentes au niveau du modèle d'affaires. Tu sais, Google est sur sa trajectoire par rapport, je crois que le modèle de search est passablement perturbé par l'avènement du generative AI. OpenAI est à trouver quel va être le modèle d'affaires. Ils ont la dépendance sur Microsoft qui peut être quelque chose de compliqué à voir. Et puis, chez Meta, ben, on a nos produits, nos canaux de distribution en deux phases. Je dirais sur les à court terme, c'est beaucoup les produits présents. Donc, c'est pas juste d'avoir un modèle du niveau GPT-4 ou GPT-5. C'est vraiment d'avoir un modèle qu'on est capable de distribuer sur toutes nos plateformes. Donc, c'est pour ça, d'une certaine façon, c'est pas le modèle à 500 milliards de paramètres là, qui va rouler sur Meta AI, qui va rouler sur les lunettes puis tout ça. C'est hyper important d'avoir des modèles de plus petite taille, mais qui sont tout aussi performants. C'est important d'avoir des modèles qui sont capables d'opérer 3 milliards de personnes, des centaines de pays différents, des langues différentes, des contextes culturels différents. Au niveau de la stratégie produit, je dirais que c'est un autre, c'est des enjeux complètement différents. Au niveau des capacités de l'IA comme telle, ça se ressemble beaucoup.
Qu'est-ce que vous pensez des agents? On parle beaucoup des agents en 2004.
Ouais, ouais.
On a tous vu Devin, là, une des démos ouais, extraordinaires. Ouais. Il y a d'autres. Ouais. Il y avait les GPT avant.
Ouais.
Est-ce que vous travaillez sur ce sujet aussi des agents
ouais.
Pour avoir un peu plus de raisonnement, de planification?
Il n'y a aucun doute qu'il faut passer à la phase d'agent. On travaille là-dessus. Je pense que tout lab qui a une ambition d'être à la fine pointe de l'intelligence artificielle travaille là-dessus présentement. Ceci dit, je pense que la marche est peut-être plus haute que ce que les gens s'imaginent. Et puis, je me permets de retourner au moment de la sortie de GPT. Quand ChatGPT est sorti en premier, tout le monde, tout d'un coup, a été super surpris de voir que les agents, que les modèles de langage pouvaient halluciner de l'information. C'est comme une découverte qu'ils pouvaient halluciner l'information. Si on regarde les agents, on va avoir le même choc quand on va voir que ces agents-là peuvent, en gros, faire de l'impersonation. Donc prendre la place d'une personne et puis tout ce que ça implique. Donc, développer ces agents-là qui ont la capacité de le faire, mais la capacité de bien le faire, c'est un gros défi. C'est la problématique de l'agent ressemble beaucoup plus au véhicule autonome qu'à un engin de recherche. Toute cette prise de décision-là avec les risques que ça implique, il y a beaucoup, beaucoup de défis. Donc, je pense qu'il faut un petit peu modérer les attentes. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vendre plein de choses avec des démos qui ont l'air super impressionnantes. Mais encore là, je pense qu'on se met une couche de difficultés supplémentaires avec notre approche ouverte. Mais ça nous garde honnête sur ce qu'on est capable de faire et de ne pas faire.
Les intelligences artificielles sont venues à tourner de plus en plus sur le local, donc sur le terminal de l'utilisateur.
Oui.
Quelle est la politique de Meta par rapport à ça? C'est votre objectif final ou...
Je pense que présentement, ça va être un peu une partie partagée. Ça va dépendre. C'est certain que pour ce qui est des devices, les lunettes, les casques, tout ça, il y a probablement une partie qui va rouler de façon locale, une partie qui va rouler de façon plus sur le cloud. On est toujours à voir comment optimiser. Et puis, au niveau de l'optimisation, il y a un trade-off qui est super important, qui est la qualité versus le délai. à laquelle on peut servir l'information. Donc, quand on roule de façon locale, souvent, c'est des plus petits modèles, on a des réponses beaucoup plus rapides, mais la réponse peut être de moindre qualité. Quand on roule sur le nuage, on a des meilleures réponses, mais avec plus de délais, l'aller-retour, il y a des propriétés physiques qu'on ne contrôle pas. Donc, je pense qu'on va regarder tout l'éventail et puis on va voir un petit peu où mettre la ligne. Ce qu'on voit, c'est beaucoup les gens pour nous qui opèrent à travers plusieurs plateformes, donc que ça soit le compte Instagram ou WhatsApp où les gens lancent sur leur téléphone, ils lancent sur leur tablette, ils lancent sur leur laptop. Donc aussi cette polyvalence d'opérer d'une plateforme à une autre va être probablement extrêmement importante.
Merci à Joëlle Pinault, directrice générale de la recherche fondamentale en IA chez Meta. On va continuer à parler d'intelligence artificielle, mais dans un tout autre domaine. C'est notre rendez-vous mensuel en partenariat avec EDF, qui soutient Monde Numérique depuis le début, et je les en remercie. L'interview qui va suivre est extraite du numéro d'avril de la série Objectif 2050. On parle d'IA au service de l'énergie, avec l'entreprise spécialisée Metroscope. Bonjour Aurélien Schwartz.
Bonjour Jérôme Colombin.
Vous êtes directeur général et cofondateur de Metroscope, une entreprise basée à la fois à Paris, à Berlin, aux États-Unis, etc. Une société en pleine croissance qui évolue sous l'aile protectrice d'EDF. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à mieux maîtriser la production électrique et notamment l'impact environnemental de cette production ?
Alors, l'intelligence artificielle de Metroscope, elle permet de dire aux personnes en charge de la réparation de la centrale, on va parler de maintenance, et aux personnes en charge du pilotage, donc on va parler d'opération, on va leur donner l'information sur tout ce qui se passe sur la centrale et qui les éloigne de l'optimum énergétique. Si on parle d'une centrale nucléaire, on va peut-être pouvoir récupérer quelques mégawatts. Alors, des mégawatts, c'est quoi? C'est une unité de production électrique, c'est une unité de puissance, et c'est de l'électricité qu'on va mettre sur le réseau. Et donc, évidemment, plus on est efficace sur la centrale, moins on aura besoin de faire appel à peut-être d'autres actifs qui, eux, vont produire du CO2, puisqu'on sait qu'une centrale nucléaire ne produit pas de CO2. Mais par contre, une centrale nucléaire qui produit pas à son maximum de capacité, bah, c'est peut-être d'autres actifs qui doivent prendre le relais. Et quand on est sur des actifs thermiques, comme des actifs gaz, améliorer l'efficacité énergétique, c'est trois fois intéressant. C'est intéressant parce qu'on consomme moins de gaz, c'est intéressant parce qu'on produit plus d'électricité, et c'est aussi intéressant parce qu'on émet moins de CO2.
Et alors, comment est-ce que vous faites tout ça concrètement? Ce sont des outils qui ressemblent à quoi?
Ça se base sur la notion de jumeau numérique. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est. Vous avez la centrale réelle. La centrale réelle, elle est équipée de capteurs. Ces capteurs, ils sont là pour mesurer les grandeurs physiques de la centrale, des pressions, des températures, également des positionnements sur des vannes qui vont pouvoir nous permettre de comprendre dans quelle configuration est la centrale, des niveaux d'eau dans des réservoirs, etc., etc. Ces informations-là, on les a en temps réel, issues de la centrale. La question qu'on se pose, c'est finalement, quand on reçoit toute cette information de la centrale, est-ce que cette information, elle est symptomatique d'une centrale qui se porte bien ou d'une centrale qui a des leviers d'efficacité qui n'est pas optimisée? Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en parallèle de l'acquisition de toute cette donnée qui nous vient des capteurs, on fait tourner une centrale virtuelle, le fameux jumeau numérique, dans lequel on a mis toutes les équations de la centrale réelle. Donc, on va mettre, pour les physiciens qui écoutent votre émission, on va mettre la thermodynamique, on va mettre les bilans de masse, on va mettre tout ce qui constitue finalement le point de fonctionnement de l'installation d'un point de vue de la physique. On a un gros système équationnel. Et puis, on va faire plus que ça. Une fois qu'on a été capable de modéliser le fonctionnement de la centrale, on va mettre aussi tous les modes de défaillance de l'installation, c'est-à-dire tous les aléas qui peuvent survenir en exploitation et qui nécessiteraient d'être réparés. Donc, on a un jumeau numérique qui va être une représentation virtuelle de la centrale qui va être capable de modéliser, de simuler le fonctionnement sain et le fonctionnement dégradé de l'installation. Donc, j'ai ce jumeau numérique capable de simuler le fonctionnement sain et le fonctionnement dégradé de l'installation. J'ai de l'autre côté les capteurs de la centrale qui me donnent les mesures en temps réel. Là, l'usage du jumeau numérique va me permettre de propager des scénarios d'aléas virtuels pour comprendre ce qui se passe dans le réel et in fine rendre un diagnostic. Et donc un diagnostic, qu'est-ce que c'est? C'est simplement dire à l'opérateur, au mainteneur, ce qui se passe. C'est lui donner de l'information sur son asset.
Sans rentrer trop dans le détail technique, quel type de problème vous pouvez découvrir comme ça?
Je vais vous donner un exemple assez classique. Vous avez, par exemple, sur toutes les centrales de production électrique, nucléaire comme thermique, un objet qui s'appelle le condenseur. Le condenseur, il est là pour utiliser l'eau de la mer ou l'eau de la rivière pour refroidir la centrale. Eh bien, si vous avez, par exemple, sur une centrale en bord de mer, des moules qui vont se mettre dans le condenseur, ça peut arriver, vous allez avoir un problème de performance sur cet échangeur de chaleur entre la mer et l'énergie, l'eau de la centrale. Ça va se passer au condenseur, ça va dégrader la performance et instantanément, on va perdre des mégawatts. Alors, c'est pas très grave et ça se nettoie, mais simplement, pour pouvoir optimiser le fonctionnement de la centrale, il faut le voir le plus vite possible. Il faut le voir le plus vite possible pour éviter de trop dégrader le fonctionnement, de trop perdre la production d'électricité et aussi de limiter au maximum l'opération de maintenance, c'est-à-dire la réparation. Parce que vous imaginez bien que plus on attend, et là on va parler d'encrassement, plus le condenseur va être encrassé. Alors là, je vous ai parlé du condenseur, mais c'est vrai pour tous les composants de la centrale. On peut trouver différents modes de défaillance qui sont très standards et qui sont communs à tout le secteur industriel, pas propre aux centrales de production électrique, et qui vont avoir un impact sur la performance globale de l'installation.
D'accord, et ça, vous voyez ce type d'inconvénient immédiatement grâce au capteur, sans avoir besoin de faire des plongées régulières, etc.
Alors nous, on va être très bons pour donner l'alerte très tôt. C'est-à-dire, si le problème est manifeste, il y aura plein de gens pour le constater. Il y a beaucoup d'experts qui regardent en continu la donnée et qui vont être les experts de chacun des composants, de chacun des modes de fonctionnement. Là où l'intelligence artificielle apporte quelque chose, c'est qu'elle permet de détecter de manière extrêmement précoce le problème et de manière automatique. Et ça permet une chose très simple qui est de mettre tout le monde d'accord sur le besoin d'intervention et d'intervenir plus vite.
Merci Aurélien Schwartz, cofondateur de la société Metroscope. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo du 13 avril 2024. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. On se retrouve la semaine prochaine, comme chaque samedi. Et puis d'ici là, ne ratez pas, toujours sur le fil du podcast Monde Numérique, les interviews intégrales, des éditos, des bonus au fil de l'eau éventuellement, et puis des articles sur le site mondenumérique.info, ainsi que la transcription des interviews de chacun des intervenants que vous venez d'entendre et que vous entendez, vous pouvez écouter tout au long de l'année. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Monde Numérique. Et puis surtout, surtout, j'attends vos commentaires et vos petites étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur les réseaux sociaux et par mail si vous le souhaitez. Merci pour votre fidélité, merci pour vos feedbacks, surtout sur les différents épisodes. C'est toujours très enrichissant d'avoir vos commentaires sur les sujets traités, sur la forme de l'émission, sur ce que vous aimeriez entendre, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, etc. N'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut!